I'm gonna send him to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm gonna send him to outer space.
Nous sommes le mercredi 14 avril. Nous parlons aujourd'hui d'une exposition organisée par les Archives Contestataires, dont tout de suite je vais préciser l'adresse internet qui est la suivante, www.archivescontestataires.ch, archives contestataires au pluriel. Alors, bonjour à toi, Frédéric Deschus, tu es membre des Archives Contestataires, mais voudrais-tu, s'il te plaît, te présenter un peu plus en avant, un peu plus précisément ?
Alors, donc je m'appelle Frédéric, je suis salarié des Archives Contestataires, j'exerce la fonction d'archiviste, mais je m'occupe aussi de l'administration de l'association. Et qu'est-ce que je peux dire à mon sujet ? J'ai une formation,
ta formation
d'historien, et puis j'ai pas mal travaillé dans différentes bibliothèques ou archives, et puis j'ai un intérêt assez marqué pour l'histoire du mouvement ouvrier, disons.
Et ça, j'imagine que c'est ce qui justifie d'une certaine manière le fait que tu en arrives à t'intéresser à des archives contestataires.
Voilà, oui.
Très bien. On va d'ailleurs revenir là-dessus tout à l'heure. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse cet entretien en deux parties. Une première qui va poser quelques jalons concernant les archives contestataires et une deuxième partie pour parler vraiment de l'exposition qui a cours maintenant depuis 2 jours, puisque c'est à partir du 12 avril que l'exposition Affiches sauvages, mémoire militante se tient, et elle se tient à la bibliothèque de Genève, donc celle que l'on appelait la BPU.
Exact.
Promenade des Bastions à Genève, et on va tout de suite le dire par ailleurs, les heures d'ouverture, c'est du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. C'est au premier étage, l'entrée est libre dans la limite des règles de distanciation sociale et de distanciation sanitaire. Je ne sais pas comment ce qu'on dit en fait.
Je ne sais pas, mais en tout cas des règles.
Des règles, voilà. Et que le port du masque est bien entendu obligatoire. Alors, si tu veux bien, nous allons parler quelques instants des archives contestataires. Voudrais-tu nous dire qu'est-ce que c'est en fait ? Quand est-ce que ça a commencé ? Quand est-ce que c'est né ? Et pourquoi faire ?
Oui. Alors, d'abord, merci de me recevoir à l'occasion de cette exposition. On est bien content de partager ça avec la BGE. On en reparlera tout à l'heure. Donc, les archives contestataires, si on les compare avec la bibliothèque de Genève, c'est une minuscule structure qui est une association qui a été fondée en 2007, c'est-à-dire une année avant les 40 ans de mai 68, à l'initiative d'un certain nombre de militantes et de militants qui avaient été actives dans le 68-69 Genevois et qui pensaient que il y avait un patrimoine documentaire du mouvement de 68-69, mais surtout des mouvements qui sont issus de cette période-là, et que ce patrimoine documentaire valait la peine d'être préservé. C'est ça qui a produit en décembre 2007 les archives contestataires. On a organisé une première rencontre sur une invitation assez large pour partager cette idée qu'on avait de l'existence de ce patrimoine documentaire, en proposant aux gens d'amener un document qui leur paraissait significatif de leur militantisme de l'époque. Et puis on s'est bien rendu compte à l'occasion de cette soirée que ce patrimoine existait réellement et qu'il valait la peine de le conserver, quoi. Donc voilà un peu l'origine de la chose. Donc ça va faire 14-15 ans que l'association existe, et puis cette intuition qu'on a eue en 2007, eh bien elle s'est très largement vérifiée, puisque aujourd'hui on doit avoir un fonds qui on n'est pas loin d'un millier de brochures, et puis on doit avoir environ 800 boîtes d'archives. Donc ce patrimoine, il existait et on a pu l'identifier, quoi.
Donc on peut dire que les desseins des archives contestataires, c'est d'une part l'archive, la mémoire, et d'autre part la visibilité, la mise à disposition de ces documents.
Oui. Donc on dit toujours qu'on a trois fonctions. La première fonction, c'est la collecte, c'est-à-dire c'est d'identifier les documents et de les collecter. La deuxième fonction, c'est la préservation matérielle, puisque c'est des documents qui sont fragiles, qui sont évidemment moins fragiles qu'un incunable ou qu'un manuscrit médiéval, mais qui ont aussi leur fragilité, si on pense par exemple au support sur bande magnétique, aux cassettes VHS ou cassettes audio, ce sont des supports très fragiles. Voilà, préservation. Et puis la troisième fonction qu'on veut remplir, c'est la valorisation, ce qu'on appelle la valorisation. Évidemment, on est dans une... les historiens parfois parlent d'histoire légitimation, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans un processus où on essaye de légitimer l'objet des mouvements sociaux de la deuxième moitié du XXe siècle comme un objet historique, c'est-à-dire comme un objet pouvant intéresser les historiennes et les historiens. Et donc, mais évidemment, la valorisation, elle n'est pas seulement en direction des historiennes et des historiens, mais beaucoup plus largement des militantes et des militants d'aujourd'hui qui auraient envie d'avoir une mémoire, de reprendre contact, disons, avec la mémoire de mouvements qui ont maintenant un demi-siècle, et puis aussi en direction du public en général, quoi.
Voilà. Peut-on dire que votre temps historique, c'est l'époque contemporaine ?
Alors, c'est même plus resserré que ça, c'est vraiment la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, nous, on s'est donné, si tu veux, la mission de conserver vraiment les documents produits par les mouvements sociaux de la deuxième moitié du XXe siècle, et probablement aussi du début du XXIe, mais en tous les cas, on ne conserve rien d'antérieur à 1950, parce que ce travail-là, le travail sur la période antérieure à 1950, il était déjà fait par d'autres institutions, comme le Collège du Travail ou l'Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier.
Effectivement. Qui sont parmi, évidemment, vos interlocutrices, interlocuteurs et alliés.
Oui, bien sûr. On a des contacts très réguliers et très amicaux.
Également sur le fait de dire que voilà, c'est une histoire particulière qui est tout de même mise en avant, qui est l'histoire sociale.
Oui, en tout cas, c'est une partie de l'histoire sociale. L'histoire sociale a une ambition probablement plus large. C'est la partie de l'histoire sociale qui concerne les mouvements, c'est-à-dire les gens qui sont déjà dans des mobilisations.
Ouais.
On n'a pas l'ambition par exemple, il existe des archives de la vie privée qui vont essayer de documenter un peu ce qu'on va appeler la vie quotidienne des gens soi-disant sans histoire. Nous, on n'a pas cette ambition-là. On cherche des traces de mouvements, d'organisations, même parfois de faibles organisations. Ça peut être des groupes affinitaires ou autres, mais quand même de mouvements, c'est-à-dire de gens mobilisés, de gens qui partagent collectivement des désirs politiques. Quoi.
Ouais. Donc il y a cette notion de collectivité également dont vous vous occupez.
Tout à fait.
Très bien. Alors dis-moi, voudrais-tu nous dire quelques mots de vous, de l'équipe? Quels sont les corps de métier qui sont représentés? Y a-t-il, comme toi, des historiens, des archivistes? Est-ce que des gens qui proviennent du cinéma, des documentalistes éventuellement, seraient là, des bibliothécaires?
Alors, les gens qui sont actifs, donc il y a une partie du travail qui est fait de façon salariée. C'est notamment moi, mais j'ai occasionnellement des collègues. Et puis là, on est tous issus soit d'études d'histoire, soit, je dirais, d'études d'information documentaire, disons. Et puis, on a des bénévoles qui effectuent différentes tâches utiles à la valorisation, donc ça peut être du catalogage, mais ça peut être aussi du reconditionnement ou de la numérisation de documents. On en fait un peu, on n'a pas les moyens évidemment de numériser l'ensemble de nos collections, mais on numérise un peu. Et donc là, les bénévoles, ils sont parfois issus de formations professionnelles antérieures, disons liées aux archives ou à la bibliothèque, et parfois pas. Donc voilà, l'équipe active, elle compte à peu près 6 personnes. Et puis à côté de ça, il y a un comité qui est passablement composé d'historiennes et d'historiens, il faut le dire, mais pas uniquement, c'est aussi des militantes et des militants, et puis des gens qui ont des approches plutôt artistiques, plus artistiques, disons, de l'archive. Et donc le comité, eh bien, il remplit sa fonction d'organe dirigeant de l'association, c'est-à-dire qu'il donne les grandes orientations et les lignes directrices de la vie de l'association. Quoi. Mmh.
Dis-moi, peut-on dire que, de votre point de vue, de ton point de vue, tu sens que du côté de ces collectifs que vous recensez, dont vous conservez les archives, eh bien, on sent qu'il y a toujours eu un souci d'archivage, de collecte d'informations pour leur postérité d'une certaine manière. Premier volet de la question. Le deuxième volet, est-ce que toi-même, tu aurais envie de conseiller ça à des mouvements émergents actuels de très jeunes personnes comme XR, la grève climat, des personnes comme ceci. Est-ce que toi, tu leur recommanderais d'ores et déjà de dire n'oubliez pas de garder des traces?
Alors, sur le premier volet, je dirais que les groupes, les collectifs ou les mouvements, globalement, n'ont pas eu ce souci-là en tant que groupe, et qu'en fait, on récupère des archives de groupes via des individus qui, eux, ont eu ce souci-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une espèce d'étape d'archivage intermédiaire qui se fait chez des individus qui ont le souci particulier de conserver des documents. Mais très rares sont les groupes. Bon, il se fait aussi qu'on a commencé en 2007 avec une focale forte sur les années 60-70. Évidemment, dans ces conditions, la plupart des groupes, tu vois, étaient dissous, n'existaient plus. Mais il y a eu peu de tentatives par exemple, de dépôt dans d'autres institutions comme les archives sociales suisses qui sont à Zurich ou même dans les dépôts d'archives publiques, quoi, institutionnelles. Il y a eu relativement peu de groupes qui auraient, il y en a d'ailleurs pas eu du tout, de groupes qui auraient déposé leurs archives dans ces cadres-là. Donc nous, on a plutôt, c'est plutôt ce processus-là, c'est-à-dire que les groupes produisent des documents et certains individus dans les groupes ont le souci de les conserver. D'accord. Et puis nous, on vient après ça, au moment où ces individus qui avaient eu le souci de conserver déménagent, décèdent ou manquent d'intérêt pour ces documents qu'ils ont conservés, et à ce moment-là, on peut intervenir. Sur le deuxième volet de la question, moi je dirais oui, évidemment, conservez vos documents.
Et oui.
Maintenant, les archives, c'est quelque chose qui donne du pouvoir. Le mot lui-même le dit, hein, c'est la même racine que dans anarchie ou dans architecte. C'est l'idée d'un pouvoir, d'une structuration. Je pense qu'il faut avoir un rapport assez pragmatique, et c'est tout à fait compréhensible que des groupes qui sont actifs maintenant ou qui viennent de cesser d'être actifs, disons, souhaitent conserver leurs archives de leur côté et souhaitent pas les verser dans un ensemble plus large, quoi. Et je dirais que dans ce cas-là, il faut pas hésiter à venir vers nous pour obtenir des conseils sur les manières de conserver les documents pour éviter de les abîmer, de les perdre et pour garantir un accès à moyen et long terme, quoi. Oui. Mais en tout cas, on n'a pas une politique, disons, impérialiste à dire il faut absolument verser chez nous, etc. Et c'est tout à fait compréhensible que des groupes souhaitent garder la main sur leurs archives un certain temps parce que voilà, c'est ça fait quand même partie de l'affirmation identitaire d'un groupe, quoi, les archives.
Oui. Oui, et puis plus tard, ça nous renseigne sur des temps. Donc effectivement, l'appel est lancé à tous les mouvements, les collectifs en résistance. N'oubliez pas de constituer des archives, de garder une mémoire, parce qu'elle est utile. Et comme tu l'as dit, elle est empouvoirisante. Fred, on va, si t'es d'accord, je vais encore te poser deux, trois petites questions concernant l'ensemble et les archives contestataires en tant que telles. Et puis on fera le focus. Est-ce que ça te convient?
Très bien.
Alors, le pourquoi archiver, je pense que tu l'as déjà dit, à moins que tu souhaiterais ajouter quelque chose. Les enjeux de l'archive, les enjeux de l'archive.
Non, les enjeux de l'archive, c'est de pouvoir réécrire l'histoire. Quand on dit réécrire l'histoire, c'est toujours négatif. Mais en fait, l'histoire, elle se réécrit vraiment. C'est-à-dire qu'elle est jamais, il n'y a jamais d'ouvrage définitif en histoire. On a besoin de retourner vers les documents avec des nouvelles questions. Et ça, il n'y a que les documents qui permettent de le faire. Et je parle pas là seulement de l'histoire des historiennes et des historiens, mais je sais aussi écrire l'histoire et les interprétations de l'histoire des mouvements pour les gens qui font partie de ces mouvements. On a besoin de ce retour sur les sources, sur les documents originaux, pour pouvoir proposer à nouveau des interprétations, pour pouvoir renouveler le cadre interprétatif. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité. Il y a indéniablement des vérités et des choses qu'on peut présenter comme connues, mais on a besoin de renouveler les perspectives d'interprétation parce que elles aussi sont sujettes à l'histoire et que on comprend évidemment les choses différemment après 20 ans, après 30 ans ou comme tu disais pour la commune après un siècle et demi.
www.archivescontestataires.ch archives contestataires au pluriel, c'est le site internet. Donc c'est également une base de données. Est-elle publique? Et qui est-ce qui la consulte? Est-ce que ce sont principalement des anciens ou des praticiennes et praticiens présents? Est-ce également des chercheuses et des chercheurs? Qui?
Une grande partie des archives qu'on conserve sont inventoriées. Donc on peut accéder non pas aux documents, parce que ça supposerait qu'ils soient numérisés, mais on peut accéder à la description des documents, ce qui permet ensuite de venir les consulter dans nos locaux. Donc ça se présente sous la forme de deux bases de données, une base de données qui est dédiée aux archives et une base de données qui est dédiée à la bibliothèque, dans laquelle sont classés et décrits l'ensemble des publications, c'est-à-dire des livres, des brochures et des périodiques, des journaux. Alors qui consulte? C'est un mélange, je dirais, entre des étudiantes et des étudiants qui sont souvent qui travaillent sur des travaux de master, donc plutôt des étudiantes et des étudiants en histoire, et puis également occasionnellement des groupes de militants qui viennent voir ce qui a été fait antérieurement dans tel ou tel autour de telle ou telle question ou problématique politique. Donc on a un peu un mélange de ces deux catégories de lectrices et de lecteurs.
Mmh. Géographiquement, les archives qui constituent votre collection, jusqu'où s'étendent-elles? Est-ce que ça reste dans un caractère, disons, local, régional, ou est-ce que ça touche également l'international?
Non, alors c'est résolument régional. C'est quand même très centré sur Genève, il faut le dire. C'est pas absolument une volonté.
Ça va avec la collection des documents, j'imagine.
C'est ça, c'est-à-dire que la collecte se fait un peu par capillarité et par interconnaissance, et donc et c'est ce qui explique ce biais genevois. sachant aussi quand même que sur le plan national, il y a les archives sociales suisses qui sont donc à Zurich, qui ont une mission de la part de la Confédération de collecter ce même type d'archives, mais au niveau national, c'est-à-dire pour les groupes de niveau national. Donc, par exemple, ça peut être un comité référendaire national sur, je ne sais pas, la modification du code pénal en 82, ce genre de choses. Donc, pour toutes les organisations de niveau national, mais qui sont plutôt rares en Suisse, du fait de la structure politique de notre pays, les archives sociales suisses ont la mission de conserver ces documents. Donc nous, on remplit un rôle plus régional. Quoi.
On va évidemment citer le CIRA, avec lesquels je suppose que vous avez des choses en commun, donc le CIRAL, Centre international de recherche sur l'anarchisme à Lausanne.
Voilà, alors le CIRAL, lui, a une mission, s'est donné, lui, une mission d'ampleur internationale. Ses collections sont véritablement internationales, même s'il a aussi, évidemment, des collections régionales. Mais c'est un des plus importants centres spécialisés dans l'anarchisme au niveau international.
Ouais. Ouais. En quelques mots, une archive, c'est quoi ? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on l'a ? Eh bien, j'aimerais qu'on revienne en quelques mots sur les rôles que tu énonçais tout à l'heure. Une archive, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on la détecte ? Comment est-ce qu'on la classifie ? Comment est-ce qu'on la conserve ? Et comment la mettons à disposition ?
La définition d'une archive, c'est pas si facile. Moi, j'ai tendance à dire, la définition que je donne souvent, c'est de dire que c'est un document dans son contexte de document. C'est-à-dire que quand on emprunte un livre à la bibliothèque, on emprunte juste un livre. Et puis, il vaut parce qu'il est, il a un titre, une couverture et un contenu. Et ça suffit comme ça. Les archives, ce qui fait une archive, c'est que c'est un document qui vient avec beaucoup d'autres documents. Et que, donc, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la série que de l'ordre de l'unique ou de la pièce. Et donc, quand on décrit un fonds d'archives, on va décrire des grandes séries. Si c'est une association, par exemple, on aura la série des procès-verbaux du comité, la série des procès-verbaux de l'Assemblée générale, la correspondance, etc. Voilà, c'est ça qui qualifie un peu l'archive, c'est le document dans son contexte documentaire. Donc la description ou la classification, eh bien elle utilise cette propriété-là, cette définition-là, et on essaye le mieux qu'on peut de restituer le contexte documentaire, c'est-à-dire d'expliquer comment les documents étaient assemblés les uns avec les autres, comment ils étaient rangés, pourquoi ils ont été rangés ensemble, qui s'est occupé de les ranger de cette façon, de les collectionner, de les conserver. Donc on essaye de restituer aussi une histoire de la collection ou du fonds auquel on a affaire. Peut-être pour être plus concret, je peux prendre un exemple. Si on a, par exemple, une militante ou un militant qui verse son fonds d'archives, donc on a beaucoup de fonds qui sont intitulés Fonds Charles Philippona, donc c'est les archives de Charles Philippona. Donc on va expliquer qu'elles ont été conservées par Charles Philippona. Et que ça retrace probablement son parcours militant, donc les différents groupes auxquels il a appartenu, etc. Et puis, dans une autre configuration possible, c'est que ce soit une organisation ou un groupe qui nous verse ses archives. Par exemple, on a récemment reçu les archives du Centre de contact suisse immigré. Mmh. Et là, on va avoir une description, une classification qui va correspondre à l'organisation de ce groupe. Donc, on va avoir le comité, le secrétariat, les permanents, le bureau enfance, la petite école, etc. Et c'est ça qui va permettre la description. Mais ça veut dire qu'on est toujours face à des ensembles documentaires qui sont assez vastes, quoi. Le fonds du CCSI, du Centre de contact suisse immigré, par exemple, c'est de l'ordre de la centaine de boîtes, quoi.
Ouais. Et alors, voilà, vous les classifiez avec des cotes, etc., comme une bibliothèque, d'une certaine manière, je suppose. Mmh. Et puis, comment est-ce qu'on les conserve ? Est-ce que là, est-ce que vous changez de support ou pas ?
Alors, tout ce qui est papier, a priori, n'est pas numérisé, sauf si on nous le demande. Ou si nous, on a de l'intérêt à le faire parce qu'on va organiser une action de valorisation et que ça nous arrange de pouvoir mettre les choses en ligne, puisqu'aujourd'hui, on peut plus se rencontrer. Ce qui est papier, c'est conservé sur support papier, mais on prend des mesures qui sont la conservation dans du papier non acide. Parce qu'il faut savoir que le papier, à partir disons, du premier quart du XXe siècle, il contient un certain nombre de substances qui provoquent sa propre destruction. Donc il va s'acidifier et puis peu à peu il va s'autodétruire. Et il va acidifier aussi les éléments métalliques qui parfois sont liés, donc les agrafes, les trombones, qui vont rouiller et puis laisser des traces de rouille assez importantes sur le papier. Donc là, on prend des mesures pour contrer ce phénomène d'acidification. C'est simplement qu'on insère les papiers dans des chemises ou des cartons qui contiennent une réserve basique, bon, j'entre un peu dans les détails, et qui va absorber cet excès d'acide et puis qui va permettre une conservation du papier. Puis après, il y a différents supports qui, eux, doivent absolument être transférés. C'est notamment les supports qui sont sur bande magnétique, parce que ces bandes magnétiques ont une durée de vie qui est très réduite. Elles ont tendance à se démagnétiser ou à se magnétiser les unes les autres si elles sont stockées les unes à côté des autres. Donc là, on est obligé de procéder au transfert de supports, donc à la numérisation de ces supports pour pouvoir les réécouter et les conserver. Et puis, il y a encore les supports, les tirages photographiques et assimilés, c'est-à-dire les diapositives, les négatifs de films, etc., qui là nécessite à la fois un reconditionnement, c'est-à-dire qu'on va les emballer sous des papiers spéciaux, et puis qui nécessite également des conditions climatiques de stockage pour assurer une bonne conservation. Donc là, dans ce dernier cas, on va parfois passer par des partenariats avec des institutions qui sont mieux équipées que nous. Pour conserver ces documents, on en reste détenteur, mais physiquement on peut imaginer de les stocker ailleurs, quoi.
Oui. Tout ça pour donner la mesure du travail titanesque qui est le vôtre et qui vous attend, parce qu'évidemment c'est non, mais il y a des vrais enjeux et on voit bien que des choses vont, j'imagine que quand vous vous projetez dans l'avenir, vous dites voilà, tous ces mouvements qui ont cours actuellement, nombreux, eh bien à un moment donné on va recevoir des choses.
Oui, donc effectivement là sur le plan matériel il y a un défi qui s'annonce qui est toute l'infrastructure informatique qui pose un double problème, qui est la relecture matérielle des supports. On se souvient que il a existé des disquettes 3 pouces 1 quart, il a existé des lecteurs jazz, il a existé toutes sortes de propositions plus farfelues les unes que les autres pour stocker de l'information. Et effectivement, ces supports-là, il va falloir pouvoir y réaccéder. Et puis, deuxième défi, pouvoir relire les fichiers qui contiendront, et ça c'est sûr que ça va être, c'est ce qui nous attend, disons, pour les années 90-2000, quoi.
Et donc ça veut dire que de votre côté vous avez tout de même un gros besoin. Alors est-ce un besoin plus en main d'œuvre avec des bénévoles qui vous rejoignent, ou est-ce plus ou également de l'argent dont vous avez besoin pour également acheter des matériels? Je pense tout simplement aux mini-disques, voilà, qui pendant un temps ont été, en tout cas pour les gens de radio, assez utiles parce qu'on pouvait faire une sorte de pré-montage assez rapidement. Eh bien, retrouver un lecteur déjà de mini-disques, c'est déjà un défi.
Alors, les besoins, ils sont assez multiples. On est d'accord avec toutes les aides, plus ou moins. Actuellement on a besoin de locaux plus grands quand même.
Ah ouais.
Ça, je dirais un peu un élément important, parce que le qu'on conserve physiquement est quand même maintenant assez volumineux. Et puis effectivement on a besoin d'argent pour fonctionner, pour avoir du matériel, et puis pour pouvoir parfois aussi faire le travail de transfert de support par des gens qui sont équipés professionnellement, je dirais. C'est sûr qu'il y a certains, par exemple les cassettes audio dont je parlais tout à l'heure, il y a un certain risque donc il faut du matériel un peu spécialisé pour éviter de détruire le document au moment où on voudrait le récupérer, quoi.
Vous avez comme ça à long terme l'ambition de numériser un maximum de documents, je veux dire de singer d'une certaine manière Gallica par exemple.
Les archives fédérales suisses sont dans un un processus de numérisation intégrale de leur fonds. Je sais pas combien de temps ça va leur prendre, mais longtemps je pense. Nous on a évidemment pas cette ambition là pour l'instant. Il faut voir quand même qu'on, comme je disais au début, on est dans un processus aussi de légitimation historiographique et on a besoin de rencontrer nos lecteurs et lectrices, même si en ce moment c'est difficile. Bon, en ce moment les salles de lecture sont ouvertes, mais elles ont été longtemps fermées en raison de la pandémie. Et on a besoin de rencontrer les lecteurs pour pouvoir échanger avec eux, pour pouvoir voir qu'est-ce qui intéresse les gens, les aiguiller sur des pistes alternatives ou parallèles. Donc je crois que nous on n'aurait pas intérêt à proposer une archive intégralement en ligne, même si c'était supposons possible.
Oui.
Maintenant évidemment ça permet un accès beaucoup plus large à un public beaucoup plus large. Donc ça c'est évidemment un effet intéressant. On n'est pas du tout réfractaire à la numérisation. Là, on a fait numériser par exemple notre collection d'affiches l'année passée. Donc on trouve maintenant sous la forme de vignettes à peu près un millier d'affiches sur notre inventaire. Parce que là, il y a un enjeu de conservation des documents, c'est-à-dire que sortir une affiche, c'est toujours l'abîmer. Donc ça permet de limiter la consultation des documents physiques à des moments où on en aurait vraiment, vraiment besoin, comme de les exposer ou ce genre de moments. Mais voilà, en tout cas, ça fait pas partie de notre programme actuel de se dire on va engager un processus de numérisation. On le fait, on numérise pas mal à la demande. Et puis quand il y a besoin pour des documents spécifiques, mais pour l'instant, on n'a pas une approche systématique qui serait de se dire on commence à la boîte 1 et on avance comme ça dans les collections.
Mmh. On le rappelle, le site internet www.archivescontestataires.ch. Sur le site, il y a également des onglets pour le soutien. On peut devenir membre des Archives Contestataires et c'est effectivement bienvenu. Alors écoutez, encore une petite question et puis on passera sur une partie plus courte qui va vraiment aller sur le focus de l'exposition qui a commencé le 12. Mais c'est extrêmement intéressant tout ce que tu nous racontes. Alors effectivement, encore une petite question si t'es OK. Mm-hmm. J'aimerais juste que tu nous dises contestataire. Voilà, parce que dans Archives Contestataires, il y a contestataire. Voudrais-tu définir cette notion, en tout cas la manière dont vous l'investissez?
Pour nous, par contestataire, on désigne les mouvements sociaux en l'occurrence de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée à la fois de mouvement, donc de gens qui sont mobilisés, et puis de gens qui sont mobilisés collectivement, même si c'est peu, pas évidemment des initiatives individuelles, etc. Mais disons qu'on parle de mouvement. Et puis, la question subsidiaire, c'est... Qu'est-ce qui caractérise ces mouvements?
Exactement.
Je dirais que dans notre conception, ce qui caractérise ces mouvements, c'est la volonté d'une émancipation des femmes et des hommes, une vision sociale émancipatrice, quoi. Ce qui effectivement exclut une zone du champ contestataire qui malheureusement se développe beaucoup aujourd'hui, mais qui effectivement reprend un certain nombre de codes de la contestation du pouvoir établi, etc. Mais avec un soubassement, je dirais, idéologique qui n'est pas émancipateur. En substance, le mot qu'on peut prononcer, c'est celui de gauche non institutionnelle et non parlementariste.
D'accord.
Ça a un petit peu les limites. On a une approche quand même assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on examine les propositions qui nous sont faites et on décide un peu sur pièce.
Mais tu l'as dit, voilà, gauche radicale extra-parlementaire, ça c'est quelque chose qui peut qualifier d'une certaine manière
Oui.
Ouais.
Après, c'est sûr qu'on voit maintenant des intérêts aussi du côté des historiens pour des mouvements pour lesquels on n'avait pas eu, ça nous était pas apparu de façon évidente en 2007, par exemple, qui est toute la zone du mouvement, je dirais, de contestation du progrès technique ou dénonciation des pollutions industrielles, par exemple. Donc évidemment, on a très vite eu les archives de Contre-Atome, donc des mouvements antinucléaires, aussi de Sortir du nucléaire, de l'Association pour l'appel de Genève, qui est aussi un groupe antinucléaire. Il y a par exemple toute une zone inexplorée autour d'un groupe qui s'appelait l'Institut de la vie, qui était un groupe de contestation du progrès technique et des nuisances de la société industrielle. Et c'est vrai que toute cette zone-là, qui fait pas partie de la gauche de généalogie ouvrière, disons, évidemment, elle fait pour nous partie aussi de notre champ de collecte. De même que toute la zone, je dirais, contre-culturelle, même si le terme contre-culture est parfois contesté, c'est-à-dire toute l'émergence des mouvements autour de la musique rock, de la revendication de lieux de vie et de sortie nocturne, de lieux de fête nocturne. Ça fait partie également de nos territoires possibles de collecte. On vient de rentrer les archives d'un groupe qui s'appelait Changer, qui était un groupe qui a organisé dans les années fin 70-80 des concerts rock à un moment où il n'y avait pas de lieu pour ça à Genève. Ça nous semble faire partie de ces mouvements sociaux dont on veut conserver le patrimoine. Quoi.
Dernière question, mais c'est une question optionnelle. Tu y répondras si tu sens qu'elle est pertinente, sinon je la couperai. Alors, actuellement, on est dans cette situation compliquée, complexe, de laquelle on espère sortir le plus rapidement possible. Dans quelques années, on aura peut-être cette distanciation critique et on pourra se retourner vers qu'est-ce qu'on fait actuellement. Il y a effectivement des mouvements qui sont extrêmement actifs autour de ce que l'on appelle la dictature sanitaire, dans lesquels on voit poindre des notions dont on peut dire qu'elles sont sociales, empreintes du mouvement social, mais également quelque chose qui a trait à l'extrême droite, au complotisme. Est-ce que vous vous questionnez déjà sur comment est-ce que vous allez traiter cette information à venir ?
C'est une question qui revient pratiquement à chaque fois que j'ai l'occasion de parler des archives. Ça va nécessiter du recul, parce que la situation dans laquelle on est maintenant, elle a une généalogie, et que par exemple, on prendra pas les archives du Parti des automobilistes. Bien que le Parti des automobilistes se voit sans doute comme contestataire, même le Parti Vigilance, tu vois, qui démarre à Genève autour de la contestation d'une pièce de théâtre sur Necker, le banquier, s'est vécu probablement au moment où il a été constitué comme un mouvement contestataire. C'est sûr que nous, on n'archivera pas, en tout cas, on n'archive pas, peut-être que je serai plus là dans 10 ans et que les gens prendront d'autres décisions, mais actuellement, on n'archive pas les documents de ces mouvements-là, parce qu'on estime que justement ils participent pas à une vision émancipatrice de l'être humain. Mais c'est une question qui est très pertinente et qui évidemment nécessitera vraisemblablement des ajustements et aussi des questionnements par rapport à l'objectif d'archives de la société. C'est-à-dire que si on prend au sérieux l'idée que les archives d'État ne sont pas que les archives de l'État, mais aussi les archives de la société, alors que faire de ces mouvements qui effectivement aujourd'hui rassemblent certainement beaucoup, je ne sais pas, mais rassemblent en tout cas un certain nombre de personnes qui reconnaissent là une possibilité d'expression politique pour eux.
Oui, effectivement, des positions qu'on peut lire comme ambiguës d'une certaine manière.
Ah oui, pour le moins.
Oui, ouais. Très bien. Frédéric Deschus, merci beaucoup. C'est la fin de la première partie.
www.libradio.org La station debout.